Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma tâche est aussi difficile que belle, puisque j'ai à essayer de raconter ce que Paul appelle le mystère de piété, dans sa première épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. J'ai à dire comment, pour sauver notre race déchue, le Verbe éternel est devenu chair, semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Comment, conçu du Saint-Esprit, puis baptisé par le Saint-Esprit dans sa 30e année, il a vécu une vie parfaite, type accompli de vie humaine selon l'Esprit. Puis, comment, par l'Esprit éternel, il s'est volontairement offert en sacrifice propitiatoire à notre place, afin de supprimer le grand obstacle au don de l'Esprit. Et comment, enfin, ressuscité et élevé dans la gloire, il est devenu Seigneur-Esprit, capable de se communiquer lui aussi avec le Père, par le fond même de son être, au fond de notre être, si nous nous attachons organiquement à lui par la foi. Dans la conception miraculeuse de Christ, l'Esprit de Dieu intervient directement, comme au jour de la création de notre monde et de la formation de l'homme. La naissance de Jésus-Christ est due immédiatement à Dieu. Ainsi est rompue la chaîne fatale des filiations adamiques. L'histoire peut recommencer, une nouvelle humanité va être fondée, Jésus en sera le chef en tant que nouvel Adam, s'il triomphe là où le premier Adam s'est laissé vaincre. Pénétrons-nous donc bien de cette pensée que, devenu volontairement homme, homme dans toute l'acception primitive du mot, Jésus s'est librement soumis à toutes les conditions et à toutes les lois de la nature humaine, et tout d'abord à la loi du développement. Non seulement, par conséquent, il a dû grandir physiquement, croître en stature, mais il s'est aussi fortifié, il a cru en sagesse, c'est-à-dire qu'il a progressé dans son être moral. Non pas il est vrai comme nous, du mal au bien, ni même du moins bien au mieux, mais du bien tel que le comportement au bien tel que le comportement plus avancé. À chaque âge, il a été l'accomplissement de la pensée divine pour cet âge, par conséquent, sa perfection même. Mais, chose surprenante au premier abord, dans ce développement absolument normal de Jésus enfant, puis de Jésus jeune homme, il n'est pas parlé du Saint-Esprit. Il croissait en grâce et en sagesse. C'est là le seul renseignement que nous possédions sur la nature de cette première phase de sa vie. Luc nous dit bien, il est vrai, qu'il se fortifiait en esprit, mais le mot « esprit » désigne ici le vase, le contenant, un des trois éléments constitutifs de l'homme, plutôt que l'hôte divin appelé à le remplir. Est-ce à dire que le Saint-Esprit n'est pas alors opéré en Jésus ? Non pas. Et comme il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de sa mère, il a été aussi, très certainement, sous son incessante action dans cette première phase de son développement moral. Car c'est dans la plénitude de la liberté et de l'homme et de Dieu que se produit le don du Saint-Esprit lui-même, le mariage définitif du Saint-Esprit avec l'âme, de sorte que, nous l'avons déjà dit, si Paul a pu écrire « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté », on peut, on doit, renversant les termes, affirmer également que là, et là seulement où est la liberté, descendra l'Esprit de Dieu. Il faut donc que l'homme soit préparé par l'Esprit à recevoir le Saint-Esprit. Il faut que, fidèle à des grâces provisoires et élémentaires, il soit par elle amené à un point de maturité où il attendra et recevra le Saint-Esprit lui-même librement et dans les conditions morales qui correspondent à la nature de l'Esprit. Eh bien, du moment que Christ, devenu homme, semblable à nous en toutes choses sauf le péché, un second Adam a été appelé à mettre sous nos yeux une vie normale d'homme, il fallait qu'il traversât cette période préparatoire dans laquelle le Saint-Esprit façonne lui-même le vase qu'il veut remplir. Un mot résume toute cette période de la vie de Christ, et ce mot est « obéissance ». Obéissance à ses parents selon la chair. Il leur était soumis, Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 51. Et comme enfant, Comme jeune homme, il a appris et réalisé parfaitement cette forme de l'obéissance dans des conditions demeurées inconnues à notre curiosité, mais qui, nous pouvons aisément le deviner, ont dû présenter à la sagesse de l'enfant d'innombrables difficultés pratiques et journalières. Et cependant, malgré les problèmes insolubles, malgré les obstacles insurmontables, il fut et il resta soumis. Obéissance au père, avec qui, dès sa jeunesse, il se sentait déjà dans une relation unique. C'est cette soumission qu'il exprima par ce « il faut » que nous retrouvons sur ses lèvres à chaque heure solennelle de sa vie. « Il faut », première parole connue du Christ. Quelle leçon déjà au point de vue du devoir. Ne faut-il pas que je sois dans les lieux et les affaires, le mot a les deux sens, les affaires et les lieux de mon Père. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 49. Et ce sera encore par obéissance qu'il viendra au Jourdain, afin d'y recevoir le baptême des mains de son cousin. Jésus-Christ a donc obéi, toujours obéi. Adam, lui, n'avait pas obéi, mais Jésus-Christ a obéi. Voilà la contrepartie exacte de la lugubre histoire, la préparation au don définitif du Saint-Esprit. Cette obéissance fut, nous dit saint Paul, une obéissance jusqu'à la mort, non pas seulement dès le jour où Jésus se livra lui-même aux Juifs en montant à Jérusalem, mais déjà par anticipation dès l'instant où il se rendit au Jourdain. En effet, se confondre avec des pécheurs pour se faire baptiser du baptême de repentance en vue de la rémission des péchés, c'est s'identifier avec eux et avec toute la race que ces hommes représentent. C'est donc épouser leur cause, assumer la responsabilité et accepter la solidarité de leur vie. C'est cesser d'être simplement l'homme selon Dieu pour devenir, en outre, l'homme répondant des hommes et sauveur des hommes. C'est par conséquent se vouer à la mort, puisque le salaire du péché, ce n'est pas seulement la nécessité de la repentance, ni un baptême de repentance, mais bien la mort. Se faire baptiser dans de telles conditions, c'est donc accepter de mourir, et d'une mort non ordinaire, d'une mort propitiatoire, au sein de laquelle pourront se produire toutes les horreurs de la mort. Mettre le pied dans l'eau du Jourdain, c'est le mettre déjà dans le sépulcre, c'est s'immoler déjà en principe et volontairement pour nous. Ne serait-ce pas pour l'avoir tout à coup entrevu ou distinctement compris que Jean s'écriera après le baptême de Jésus « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Eh bien, Jésus ira-t-il jusque-là ou se bornera-t-il à fournir pour lui-même, pour lui seul et jusqu'au bout une carrière d'homme saint, carrière d'homme modèle, mais seulement modèle sous les yeux des autres hommes? L'instant est inexprimablement solennel. L'amour dit oui. La nature, elle, qui très légitimement a horreur de la souffrance, parce que ce n'est pas en vue de la souffrance qu'elle a été créée, la nature dirait non. À l'aide de celle-ci semble involontairement venir le Baptiste lui-même, lorsque, à la vue du jeune Galiléen, en qui il a reconnu son supérieur, il recule en s'écriant « Non pas toi par moi !» mais bien plutôt moi par toi. Cet instant ne serait-il pas pour Jésus, dans sa phase préparatoire, un instant de suprême tentation? Si c'en est une, elle a été surmontée. Christ n'y a pas cédé. Il persiste dans la résolution que, dès l'éternité, il avait prise en Dieu et que, sur la terre, il a dû reprendre à titre d'homme. « Il faut, répondit-il, il faut que nous accomplissions toute justice. » Il faut, première parole connue du Christ, il faut que nous accomplissions toute justice, première parole publique, première parole et base de son ministère. Son œuvre sera donc telle que, bien loin d'ébranler, elle rétablira les fondements mêmes du trône de Dieu. Il faut, toujours l'obéissance, et les deux hommes, sans qu'autour d'eux on se doute que c'est là le salut du monde qui commence à cette heure, là, dans cette eau, les deux hommes descendent dans le fleuve, et Jésus-Christ y fait, sans aucun doute comme les autres Juifs, une confession de péché. Confession unique en son genre, la confession type, la confession des péchés de notre race, et ainsi il rend hommage à la sainteté divine. Il reconnaît l'ordre éternel que la chute a profondément troublé. Par là même, en tant qu'homme, futur agneau qui ôtera les péchés du monde, il rentre dans la pleine communion du Père. Il achève de s'ouvrir à l'Esprit et, aussitôt, en effet, les cieux lui sont ouverts. C'est-à-dire qu'il recouvre la pleine conscience d'une union éternelle et essentielle avec le Père dont volontairement il s'était dépouillé. Le Saint-Esprit descend sur lui, sous forme visible, afin que Jean puisse en rendre témoignage. Et les mots d'approbation divine qu'Ésaïe avait prononcés tant de siècles auparavant, ces mots qui consacrent l'adoption filiale de Christ en tant qu'homme et de l'homme en Christ, ces mots retentissent dans l'espace ou dans l'âme et de Christ et de Jean. C'est ici mon Fils bien-aimé. Enfin, il est consacré définitivement le véritable Oint, le Messie, le Christ de l'Éternel, celui dont les siècles attendaient la venue, celui dont les sacrificateurs, les prophètes et les rois de l'Ancienne Alliance n'étaient que la très imparfaite image. Les rois et les sacrificateurs, puisque sur leur tête n'était versé que l'huile sainte, symbole de l'Esprit, et les prophètes, puisque l'Esprit opérait chez eux d'une façon intermittente et incomplète. Lorsque, dans le dernier chapitre de l'Exode, nous est racontée la construction du tabernacle au désert, à cette reprise est mentionnée la consécration de toutes les parties de ce temple et de tous les détails relatifs à son culte. Puis, à cette reprise aussi est répétée cette formule qui est comme un refrain solennel, « comme l'Éternel le lui avait commandé ». Ainsi fut préparé pour l'Éternel, dans toutes ses parties constitutives et ses moindres éléments, le tabernacle de l'Alliance. Aussi la gloire de Jéhovah put-elle l'envahir ensuite et sans peine, construit sous la direction de l'Esprit de Dieu, le temple fut tout à coup rempli de la gloire de Dieu. Il en a été de même du seul vrai temple vivant de l'Éternel, préparé par l'Esprit, envahi par l'Esprit, et cela sans mesure. Alors, et alors seulement, furent pleinement accomplies les antiques prophéties d'Ésaïe, le prophète plus spécialement attaché à la personne de Christ. Il sortira un rameau du tronc d'Isaïe, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esprit de sagesse, d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il jugera avec justice les chétifs, il fera mourir les méchants par le souffle de sa bouche. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. Voici mon serviteur, je le maintiendrai. Voici mon élu auquel mon âme prend son bon plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il ne se retirera pas qu'il n'ait rétabli l'ordre sur la terre. Les îles s'attendront à lui. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, et pour annoncer l'année de la bienveillance de l'Éternel. Toutefois, pour mettre en quelque sorte le sceau à ce sceau, et identifier définitivement Christ et l'Esprit dans sa plénitude, il faudra encore que le Fils de l'homme livre une lutte indiciblement solennelle contre le grand usurpateur du monde. Mais comme c'est l'Esprit qui y engage Jésus, l'Esprit l'y rendra vainqueur et par l'épée de l'Esprit, de sorte que tout ce qu'aura obtenu Satan au terme de ce duel qui engage tout l'avenir de notre race, c'est que, poussé par l'Esprit au désert, afin que d'y être tenté, Jésus-Christ en reviendra dans la puissance même de l'Esprit, nous dit saint Luc, c'est-à-dire revêtu de toutes les armes divines et de tous les pouvoirs. Ici encore, c'est le mot « obéissance » qui résume le drame. Obéissance dans l'emploi de la grâce suprême, le don du Saint-Esprit, comme jadis, obéissance dans celui d'une grâce plus humble et préparatoire, le don de la sagesse. Obéissance en ce qu'en dépit des sollicitations captieuses de Satan, Jésus ne fait pas usage de son pouvoir miraculeux pour sortir par lui-même et pour lui-même de la position difficile et douloureuse où son Père l'a mis. obéissance en ce qu'il ne s'y expose pas davantage de lui-même et qu'il n'accomplit pas un miracle de son chef, fût-ce dans un acte qui semblait pourtant devoir glorifier Dieu. Obéissance, enfin, en ce que pour le but à poursuivre qui est la fondation du royaume de Dieu sur les ruines de celui de Satan, Christ ne prendra conseil que de Dieu, alors qu'une concession momentanée, un compromis avec le mal, ce qu'aujourd'hui nous pratiquons tant sous le nom d'opportunisme et de conciliation, pourrait, semble-t-il, lui donner d'un seul coup la victoire, tout en le soulageant de tout le poids de la croix. Obéissance, parfaite obéissance, c'est-à-dire communion avec le Père, parfaite dans son principe qui est l'amour, parfaite dans son étendue qui embrasse tout Christ, parfaite enfin dans sa continuité. Tel est le principe, tel est le caractère de cette vie humaine remplie de l'Esprit. Au point de vue de ces manifestations visibles, qu'a-t-elle été? Maintenant que Christ, conduit par l'Esprit au désert, en est revenu dans la pleine et définitive possession de cette puissance, quel spectacle allons-nous avoir? C'est ici qu'un observateur superficiel pourrait avoir des déceptions. Habitués que nous sommes à ce qu'en pénétrant dans l'homme, sous l'ancienne alliance et quelquefois sous la nouvelle, le Saint-Esprit ait produit des phénomènes psychiques et physiques qui allaient jusqu'à subjuguer, quelquefois jusqu'à terrasser matériellement un homme, nous pourrions bien nous attendre à ce que dans un homme, pour la première fois rempli de l'Esprit, on ait vu se produire de délirantes joies, des états extatiques, des explosions de vie divine et par conséquent des commotions violentes dans tout le système nerveux. Eh bien, chez Jésus-Christ, il ne s'est produit rien de pareil. Nul tremblement, pas de prostration, pas même chez lui de ces recrudescences soudaines de vie de l'Esprit et de ces transports exultants que les actes signalent chez les chrétiens de la primitive Église. Remarque plus surprenante encore, c'est à propos de Jésus-Christ lui-même qu'il est le moins parlé du Saint-Esprit. Dans les écrits des prophètes, nous l'avons constaté, se reproduit souvent cette remarque « L'Esprit fut sur moi, l'Esprit me saisit, l'Esprit me fit tenir debout ». Dans les récits de la vie des apôtres, il est également souvent répété que l'Esprit dit à l'un d'aller ici, à l'autre de ne pas pénétrer dans telle province, ou au contraire d'entrer dans telle autre. Eh bien, dans les quatre évangiles, on peut tourner des pages et des pages sans qu'il soit parlé du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Après avoir raconté que Christ fut conçu du Saint-Esprit, puisqu'il reçut le Saint-Esprit, et cela sans mesure, que par l'Esprit il fut conduit au désert pour en revenir après sa triple victoire dans la puissance du Saint-Esprit, après avoir recueilli cette seule allusion de Christ au Saint-Esprit en lui, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons », on ne trouve plus de mention du Saint-Esprit jusqu'à l'ascension de Christ. Qu'est-ce à dire? Oh, des observateurs superficiels et peu spirituels, mettant Christ en parallèle avec un Élie sur le Carmel, ou saint Paul en telle occurrence, ou par la pensée le transportant en pleine église de Corinthe, c'est-à-dire en pleine incandescence spirituelle, n'hésiterait peut-être pas à croire que chez Christ l'Esprit agit moins puissamment que chez les Corinthiens, en tout cas que chez les prophètes, pour ne pas dire chez un Saül. Eh bien, c'est la conclusion opposée que nous tirerons de ces faits inattendus. Si chez Christ nous ne constatons aucun ébranlement physique, aucune commotion, si chez lui tout est absolument calme, équilibré, simple, naturel, non seulement sans pause ni attitude, mais sans effort, sans aucune tension nerveuse, quoique certes, on ne puisse pas dire sans sensibilité profonde, si le Saint-Esprit disparaît à tel point en Christ qu'il n'est bientôt plus parlé de lui, c'est parce que le Saint-Esprit se sent absolument chez lui. Il est « at home » dans une nature humaine, absolument adéquate à la sienne, parfaitement préparée par lui-même et pour lui-même. Il en est de l'homme ici comme d'une maison construite par un architecte habile et consciencieux, en vue de tous les moindres besoins et de toutes les circonstances de quelques grands personnages. Si bien qu'à l'arrivée de ce propriétaire, chaque être, chaque meuble, chaque objet trouvera immédiatement sa place sans qu'il y ait dans le bâtiment la moindre modification à apporter. Tel fut le cas de Jésus-Christ. tandis qu'il faudra au contraire, non seulement après coup, construire ailes et dépendances, mais aussi abattre murs et parois, pratiquer de nombreuses ouvertures, bouleverser le plan primitif de cette demeure, si les circonstances ou l'inexpérience du constructeur ne l'ont pas préparé en vue du puissant personnage qui en prend possession. Et voilà le cas de Saül. L'importance de cette observation n'échappera à personne. L'histoire des réveils abonde en faits qui déconcertent toutes nos théories. Gardons-nous d'en avoir de trop absolus. Nous risquerions d'éteindre l'esprit en rejetant avec ce qui est de l'homme ce qui procède évidemment de Dieu. La sagesse des chrétiens, et spécialement des pasteurs en cas pareil, consiste non à refouler mais à diriger, et cela avec une extrême prudence, sans parti pris, mais d'autre part, en face d'excitation et de la secrète convoitise de phénomènes extraordinaires qui paraîtraient aux âmes inexpérimentées la marque indispensable d'un vrai réveil, il sera toujours sage de se rappeler et de rappeler doucement que de tous ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit, celui qui l'a reçu sans mesure est aussi celui dans la vie duquel manque le plus complètement de tels phénomènes. Instrument parfait, touché par un parfait artiste, encore une fois, tel fut le Fils de l'homme au service de l'Esprit. Aussi, quelle œuvre que celle de l'Esprit en lui! Je ne parle pas seulement des miracles qu'il a accomplis et d'une façon tellement spirituelle, ni de cette puissance mystérieuse qui sortait de tout son être et guérissait les malades. Je ne parlerai pas davantage de ces paroles qui étaient esprit et vie, paroles de vie éternelle, s'écriait Simon-Pierre, semences fécondes dans lesquelles était concentré le maximum de puissance sous la forme la plus concise et qui font de Christ, tant au point de vue de la profondeur insondable que de la parfaite clarté et de la simplicité, le modèle de l'évangéliste, le modèle du prédicateur, le modèle du docteur, le modèle du pasteur et du pédagogue. Non, je veux parler de sa vie elle-même et de son caractère, où l'étude la plus rigoureuse ne réussira jamais à trouver la moindre tache. Ce mot même de caractère, je ne devrais pas le prononcer, car Jésus-Christ n'a pas eu un caractère, si par là on entend même, dans l'acception la plus favorable, une prédominance de certaines qualités qui supposent à côté, inévitablement, certaines lacunes ou des défauts proprement dit. Chez Christ, rien ne fait saillie parce que rien n'est en souffrance. Pas de proéminence parce qu'il n'y a nulle part de dépression. Tout chez lui est non pas, certes, monotonie, uniformité, mais harmonie, divine harmonie, et pourtant humaine harmonie, l'harmonie des contraires, c'est-à-dire la perfection même que l'on peut définir, la résultante de toutes les forces morales se faisant équilibre deux à deux. Par exemple, infiniment tendre, non moins qu'inébranlablement ferme, Jésus-Christ a ressenti une horreur du péché, égale à sa pitié pour le pécheur. Prudent comme le serpent, il a été simple comme la colombe. Courageux, on sait jusqu'à quel degré, il ne fut jamais téméraire. Il a été homme d'action autant que l'homme de la vie recueillie. Sa charité ne fit jamais tort à son autorité, ni sa majesté à son humilité. Il n'imposait pas, et cependant, chacun se sentait en face d'un être infiniment supérieur. La familiarité de son langage égalait la sublimité de sa doctrine, populaire sans vulgarité, infiniment profond sans cesser d'être absolument limpide. Il a réuni, en un mot, avec toutes les vertus, toutes les qualités, sans qu'il eût à les racheter au prix que nous donnons pour les nôtres. Et ses qualités allaient jusqu'aux nuances les plus délicates de l'affabilité, de la grâce, de la bonne grâce et d'un charme indéfinissable qui ne compromettait nullement sa virilité et son parfait naturel. Ô Christ, le plus noble des fils des hommes, que ne puis-je dire mieux l'impression que produisent ta sublime beauté et ta sublime bonté? Et que ne pouvons-nous, dirons-nous peut-être, rester en contemplation à tes pieds, divin modèle, comme les apôtres privilégiés sur la montagne de ta gloire? Faisons ici trois tentes, il serait si bon de demeurer ici. Cette parole de Pierre, qui ne savait ce qu'il disait, est tellement le cri spontané de la nature humaine. Pourquoi redescendre? Pourquoi aller mourir, et d'une telle mort ignominieuse, à Jérusalem? pourquoi du sang fût-ce ton sang, ô Christ? Ton exemple, ton enseignement, ta vie ne suffisait-il pas? L'attrait irrésistible de ta personne ne sera-t-il pas un aimant capable de nous détacher de nous-mêmes et du mal pour nous livrer à toi? Oui, il ne serait que trop agréable à notre cœur de n'être pas humilié dans un sauveur humilié. La mortification nous répugne, supprimons-la, mais avec cela, l'essence, le principe même du péché, spiritualisé en quelque sorte par cette glorification immédiate, subsisterait caché, comme un poison subtil au fond de l'âme. En falsifiant l'œuvre de Christ, il accomplirait admirablement celle de Satan. En apparence sauvé, en réalité perdu et sans retour, l'homme serait une proie toute prête pour l'Antichrist, cette contrefaçon habile du Sauveur, le plus grand charmeur qui sera jamais, parce qu'il ne sera nullement un monstre, mais le fruit exquis du péché spirituel et d'une humanité raffinée, mais non régénérée. Non, non, il fallait que le Fils de l'homme souffrît et qu'il fût fait péché à notre place, non seulement afin de nous racheter de la malédiction de la loi qui empêchait le don de l'Esprit, mais aussi afin qu'en nous unissant indissolublement à lui, dans sa mort et sa résurrection, il nous fît descendre avant de nous élever, descendre jusque dans le sépulcre d'où nous sortons par la foi, homme nouveau, dépouillé de la propre justice et apte à recevoir le don suprême. Alors, encore faut-il que la Sainte Cène nous rappelle sans cesse nos origines, en nous ramenant des hauteurs de la spiritualité au pied de la croix et dans le sépulcre même du Christ. Le sang de Christ est donc la condition absolue du don de l'Esprit de Christ, condition objective et subjective, et les avant-goûts du ciel, si délicieux soient-ils, ne devront jamais nous porter à dédaigner ou à négliger comme définitivement dépassé ce que Vinet, mourant, réclamait pour lui-même en disant « Répétez-moi les choses les plus élémentaires ». Du reste, si l'amour est la grandeur suprême, s'il est la gloire du ciel, s'il est le vrai diadème du Très-Haut et d'Emmanuel, si comme au ciel il n'est sur la terre rien de grand que la charité, et, ajouterons-nous, si la force morale qui est celle de l'esprit ne remporte jamais de plus éclatante victoire qu'au jour où, dans une apparente impuissante, elle subit sans fléchir l'assaut de toutes les puissances terrestres ou infernales coalisées, alors où, je le demande, où, sinon à Gethsémané, et de là chez Anne et chez Caïphe, chez Pilate et chez Hérode, sur la voie douloureuse et enfin au calvaire, a été remportée la suprême victoire de l'esprit. Sous ton voile d'ignominie, sous ta couronne de douleur, n'attends pas que je te renie, chef auguste de mon sauveur. Mon œil sous le sanglant nuage qui me dérobe ta beauté a retrouvé de ton visage l'ineffaçable majesté. Jamais dans la sainte lumière, jamais dans le repos du ciel, d'un plus céleste caractère, ne brilla ton front immortel. Au séjour de la beauté même, jamais ta beauté ne jeta tant de rayons qu'au jour suprême où tu gravis sur Golgotha. Vous qui, d'extase et de prière, remplissez vos jours infinis, adorant le Fils dans le Père, aimant le Père dans le Fils, ange au séjour de la gloire, vous semblait-il plus radieux que sur ce bois expiatoire et sous la colère des cieux? Son supplice aujourd'hui consomme cette grandeur née au saint lieu, et l'opprobre du Fils de l'homme et la gloire du Fils de Dieu. « Je suis amour, a dit le Père, et quittant le divin séjour, Jésus-Christ vient dire à la terre, « Je suis son Fils, je suis amour. » Il est amour, il est Dieu même, le Dieu par qui Dieu nous bénit, le Dieu qu'on voit, le Dieu qu'on aime, Dieu par qui l'homme à Dieu s'unit. Où donc est la gloire sublime, plutôt qu'en ce terrible lieu, où mon Dieu se fait ma victime, où je trouve un frère en mon Dieu? L'amour est la grandeur suprême, l'amour est la gloire du ciel, l'amour est le vrai diadème du Très-Haut et d'Emmanuel. Loin de moi, vision grossière, de grandeur et de dignité, comme au ciel il n'est sur la terre rien de grand que la charité. C'est, il est vrai, dans sa faiblesse que Christ a été crucifié. Mais vivifié en esprit, et comme esprit, nous dit saint Pierre, il a commencé son triomphe, en allant accomplir un mystérieux ministère auprès des esprits qui étaient en prison. Puis, ressuscité par l'intervention directe du Père, il a, 40 jours durant, déjà vainqueur dans son corps des lois de la nature déchue, habitué ses disciples, par des visites et des disparitions inattendues, à ce nouveau mode de relation dont il leur avait parlé, en disant « Que votre cœur ne se trouble point, il y a dans la maison du Père, et pour l'enfant de Dieu, tout est maison du Père, plusieurs demeures, c'est-à-dire plusieurs milieux et plusieurs modes de relation. » Entre le mode inférieur qui a l'essence pour organe et qui va prendre fin, et le mode céleste que vous connaîtrez un jour, il en existe un autre, un mode intermédiaire que je vais vous préparer, afin que nos rapports s'y reforment et plus fort que jamais. Préparer ce mode de rapport, c'était pour Christ rentrer dans la gloire, rentrer en possession de la plénitude de ses attributs divins, de l'ubiquité, entre autres, qui devait lui permettre d'être partout où l'appelle un cœur d'homme pour se communiquer à lui en tant que Seigneur Esprit. Et, en effet, le jour de la Pentecôte a vu s'accomplir la promesse. Christ a commencé à revivre dans les siens, devenu définitivement l'Esprit vivifiant, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, celui qui est la vie et l'espérance de la gloire, celui en qui le croyant trouve tout pleinement, par la foi, il a entrepris de transformer, trait pour trait, chacun des siens à son image. Et c'est ici qu'en effet commence à se produire la merveille des merveilles, la transfusion de la vie de Christ. « Parce que je vis, vous vivrez, et vous vivrez de ma vie, moi en eux comme le Père en moi. » L'enfant de Dieu, une reproduction de Christ, copie toujours bien imparfaite ici-bas, mais pourtant copie, ein Christ, disent les Allemands, c'est-à-dire un Christ. On dit que, d'un bloc informe et délaissé, dans les champs de Florence, Michel-Ange a tiré l'un de ses chefs-d'œuvre, son David vainqueur. De quel bloc, ô mon Dieu, de quel bloc plus impropre encore, bloc en décomposition, ô divin sculpteur de l'âme, ton ciseau travaille-t-il à faire sortir une image de ton Fils bien-aimé, image qui bientôt peut-être deviendra la plus grande de tes gloires. Je ne suis pas l'homme qu'il me faut, disait le professeur Euler mourant à notre vénéré professeur Beck. C'est Christ qu'il est, lui fut-il, je crois, répondu. Oui, Christ qu'il est pour tous, et qui, non content de l'être pour nous, hors de nous, aspire à l'être encore et dès ici-bas en nous. Oh, qui donc ne prononcerait son Amen avec adoration, en se livrant au grand artiste, afin qu'il puisse bientôt dire aussi de cette œuvre individuelle « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ».